Alors Lilian Mathieu, merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que d'abord vous pourriez nous expliquer ce qui vous a conduit à revenir sur ce thème de recherche dont vous vous étiez éloigné?
Ce qui m'a conduit en fait, c'est le... Moi j'avais arrêté de faire du terrain vers 2000-2001 sur la prostitution. Ce qui m'a un peu conduit à revenir là-dessus, ça a été la force des événements, c'était un peu à mon corps défendant. C'est donc en 2002, il y a eu l'élection présidentielle, le nouveau gouvernement et Nicolas Sarkozy qui arrive au ministère de l'Intérieur et qui axe une partie de sa politique en matière de maintien de l'ordre, de sécurité publique sur la prostitution. Donc avec très rapidement la loi sur la sécurité intérieure qui réintroduit le délit de racolage passif avec des dispositions répressives à l'égard des prostituées étrangères en situation irrégulière. Donc j'ai été sollicité par... La prostitution est devenue un thème de débats à la fois dans les quotidiens, à travers des tribunes qui se répondaient les unes les autres. Également, il y a plusieurs revues de sociologie ou de sciences sociales plus généralement qui ont monté des dossiers sur la prostitution. Et moi, je commençais à être un peu repéré sur ce terrain-là, du fait que j'avais publié deux bouquins les années précédentes sur ces questions-là. Donc j'ai été sollicité pour faire des articles, j'ai été sollicité pour donner mon avis sur les politiques en cours. Et puis dans le même temps, j'observais un petit peu le débat, justement, tel qu'il s'exprimait notamment dans les quotidiens. Et j'étais un peu frustré ou agacé par le fait que des positions très opposées s'exprimaient, mais tout ce que les sciences sociales avaient accumulé comme savoir sur ce domaine-là, et ça dépasse très largement mes travaux, je pense notamment à ceux de Stéphanie Priat, tous les travaux qui ont été impulsés à partir du début des années 90 par les exigences de la lutte contre le sida. Il y a eu un besoin de connaissances sur la prostitution, donc des connaissances sociologiques ou épidémiologiques ont été accumulées, mais ce capital de connaissances n'a jamais été mobilisé dans le débat. J'ai un peu hésité parce que c'est vrai que moi j'étais parti sur d'autres terrains de recherche, je ne voulais plus travailler sur la prostitution. Dans le même temps, j'avais ces articles qui avaient été publiés dans des revues de sciences sociales. J'ai eu l'opportunité l'année dernière de retravailler les textes. J'ai eu l'opportunité, grâce aux éditions textuelles, d'en faire un bouquin. Donc c'est un livre qui est composé d'articles qui sont, pour certains, relativement anciens, que j'ai réactualisés, remaniés, en fonction de l'évolution de la manière dont je pouvais réfléchir sur la prostitution, en fonction surtout d'autres travaux de sciences sociales qui avaient pu être publiés. Je pense notamment au travail dirigé par Marie-Elisabeth Handmann et Janine Mossus-Lavaux sur la prostitution à Paris. Donc j'ai retravaillé ces textes et j'ai aussi, à travers une introduction et surtout un premier chapitre, je suis revenu sur la polémique de 2002 et en essayant d'apporter un éclairage sociologique sur les controverses dont la prostitution avait été l'objet et sur la politique dont elle est l'objet aussi.
Justement, pour vous reparler de ce débat donc, qui a été largement ouvert par la polémique de 2002 et ensuite la loi sur la sécurité intérieure, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les deux positions qui structurent finalement ce débat public et que vous renvoyez dos à dos dans votre ouvrage?
Alors, c'est des positions qui se sont particulièrement exprimées au moment de la polémique sur la loi Sarkozy, mais qui lui préexistent et qui lui ont survécu. Alors, ces deux positions antagonistes qui sont d'une part... Première chose, soit considérer la prostitution comme un métier qui n'est pas tout à fait comme un autre, mais qui exige d'être reconnu comme un autre, notamment parce que ça permettrait aux prostituées de bénéficier d'un accès à la protection sociale, et ça normaliserait cette activité qui est leur source de revenus pour les personnes qui l'exercent. Donc une espèce de dédramatisation au nom, parfois, de la liberté sexuelle. De l'autonomie du sujet qui doit garder la maîtrise de son corps, y compris le droit d'en faire une source de revenus. Première position. Seconde position, totalement inverse, qui est celle de considérer la prostitution comme un esclavage, comme une forme extrême de la domination masculine et qui exigerait en tant que telle d'être abolie. C'est une position qu'on retrouve notamment dans certains courants féministes et qui considère que il n'y a pas de possibilité d'une prostitution autonome. C'est un contresens, c'est un oxymore. Et donc s'il y a prostitution, c'est que soit il y a nécessairement un proxénète qui exerce une contrainte sur la volonté des personnes, des femmes qui exercent la prostitution, soit que ces personnes qui l'exercent et qui éventuellement revendiquent une autonomie sont des inadaptées sociales. Donc elles n'ont pas tout leur bon sens. Et donc elles n'ont pas à être crues lorsqu'elles revendiquent leur autonomie. Alors ces deux positions qui me semblent inconséquentes pour toute une série de raisons, notamment... Alors la première, parce qu'elle accorde d'une certaine manière trop d'autonomie, elle postule trop d'autonomie à des personnes qui, si on va y voir de près, si, et notamment c'est ce que montrent les enquêtes sociologiques, bah, sont prises dans toute une série de contraintes, de formes de domination qui font que leur autonomie n'est pas complète. Elles peuvent être, en général, sur une situation économique extrêmement précaire, elles peuvent avoir des problèmes psychologiques, pas toutes, mais certaines. Elles peuvent, là aussi pas toutes, mais certaines, être sous la dépendance de proxénètes. Elles peuvent être toxicomanes, dépendantes d'un produit. Elles peuvent être sans domicile fixe, sans papier, être cumulées à des degrés divers selon les cas, des formes de dépendance, de contrainte. La position inverse, elle pêche par le postulat inverse, qui est de réfuter a priori, avant d'aller y voir, une totale hétéronomie des personnes prostituées, et donc de tomber dans le piège d'une définition essentialiste de la prostitution. Et puis, chacune a aussi des problèmes pratiques très... si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, pose des difficultés. Si on reconnaît la prostitution comme un métier alors que c'est une réponse à des situations d'urgence, on délimite des prostituées légitimes, des vraies professionnelles, mais celles pour qui c'est une solution à un problème urgent sont par définition illégitimes parce qu'elles ne correspondent pas à ces critères du professionnalisme. Écueil inverse du côté de ceux qui considèrent la prostitution comme un esclavage ou comme une violence contre les femmes. Si c'est une violence, il faut criminaliser, réprimer les auteurs de cette violence, donc les clients. Et si on réprime les clients, c'est ce que fait la Suède, et ben on contraint la prostitution, parce que les prostituées ont besoin malgré tout de les rencontrer, ces clients. On les force à s'isoler, à rentrer dans la clandestinité où elles sont encore plus précaires, encore plus fragiles, parce qu'elles sont davantage isolées, davantage difficiles à contacter par ceux qui, justement, seraient là, travailleurs sociaux, organismes de santé publique, seraient là pour les aider.
Finalement, le terrain sociologique... Enfin, déjà, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur la manière dont on enquête sur un objet aussi sensible, finalement, que la prostitution ? Donc, quelles ont été les méthodes que vous avez employées ? Et ensuite, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle manière, finalement, ce terrain sociologique vous a amené à considérer qu'il fallait déplacer le regard sur la prostitution et donc de quelle manière il fallait le déplacer ?
Oui, alors, les méthodes, il y a eu plusieurs phases. J'ai travaillé sur une dizaine d'années sur ce terrain-là. Alors, au début, c'était dans le cadre d'un DEA et puis surtout d'une recherche qui était financée par... C'était au tout début des années 90 par l'Agence française de lutte contre le sida. Où en fait j'ai bénéficié de l'aide de travailleurs sociaux spécifiquement mandatés pour s'occuper des prostituées, notamment leur apporter assistance et leur proposer de la réinsertion. Donc j'ai un peu fait des tournées comme eux le faisaient sur les zones de la prostitution lyonnaise. Et puis j'ai été présenté, ce qui permettait, voilà, l'intermédiaire était connu, reconnu, c'était le travailleur social qui un peu me garantissait auprès de ces personnes quant à l'anonymat, quant à la sincérité de mes demandes. Ça a permis de faire un certain entretien avec certaines personnes qui ont accepté. Alors là, pour des raisons qui pouvaient être liées à leur relation avec le travailleur social, bon, ça c'est toujours compliqué, mais... qui ont malgré tout accepté de faire des entretiens. Par la suite, j'ai eu de la chance, c'est que cette Recherche Action a débouché sur la mise en place d'une action de santé publique, de prévention du sida sur la ville de Lyon, donc une association qui s'appelle Kabiria, qui tourne toujours, qui existe encore. Et j'ai fait beaucoup d'observations sur la très longue durée au sein de cette association, à la fois pendant des permanences d'accueil en journée et dans le camping-car qui circule près des prostituées le soir et où elles peuvent venir boire un café, s'équiper en préservatif, en seringue, solliciter un conseil, une orientation en matière de santé. Bon, et moi j'ai pu rester sur des longues périodes, ce qui m'a permis au bout d'un moment de faire partie un peu des têtes connues. On ne savait pas trop ce que j'étais, ce que je faisais, pourquoi j'étais là, mais j'étais capable de distribuer le café et des préservatifs. J'étais pas quelqu'un de dangereux ou dont il fallait se méfier. Donc les conversations auxquelles je pouvais prendre part ou pas, parfois j'étais simplement observateur, elles étaient très riches entre prostituées parce qu'elles m'apprenaient beaucoup de choses sur leur quotidien, à la fois sur leurs pratiques, mais sur leurs conditions d'existence, sur leurs loisirs, sur leur réseau de sociabilité, sur leur situation familiale, sur tout un tas de problèmes qu'elles pouvaient avoir en regard du logement, de la santé, de la protection sociale, de leur famille, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mené sur plusieurs années avec des phases d'observation en général de plusieurs mois en continu, que j'ai réédité par la suite à Marseille dans une association équivalente, que j'ai un peu fait aussi à Paris où il y a plusieurs associations équivalentes. Et voilà, ça m'a permis, mais c'est intéressant parce que ça permettait d'aller au-delà des entretiens informels qui sont pour ce type de population pas toujours la méthode la plus adéquate, alors que des conversations libres comme ça m'apprenaient beaucoup plus de choses, y compris des gens que j'avais interviewés de manière très très formelle, une fois le magnétophone refermé, ou dans des interactions de la pure sociabilité autour d'un café, m'apprenaient énormément de choses sur elles-mêmes, sur leur trajectoire. Alors bon, là, il n'était pas question d'enregistrer, il n'était pas question de prendre des notes non plus en direct, parce que là, ça aurait suscité une méfiance immédiate. Donc ce que je faisais, c'était après chaque après-midi ou soirée d'observation, je tenais un journal de terrain où j'essayais de conserver la mémoire d'un maximum de choses. Alors j'en perdais beaucoup, mais malgré tout, j'engrangeais beaucoup de connaissances par ce biais-là. La seconde question, c'est le fait de connaître un peu plus sur les prostituées en dehors de la prostitution, c'est-à-dire sur leur logement, sur leur famille, etc., sur leurs loisirs éventuellement. Alors d'une part, ça je l'avais déjà vu très tôt, c'est le fait que c'est un univers extrêmement hétérogène, où on a, y compris à des coins de rue très proches, des personnes qui sont dans qui ont un train de vie relativement confortable, voire même très confortable, à condition qu'elles aient suffisamment les ressources pour gérer leur argent et leur existence de manière à bien s'en sortir. Et puis il y a des gens qui cumulent les handicaps, les contraintes, les facteurs de fragilité. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé la notion d'espace de la prostitution qui est inspirée du concept de champ chez Bourdieu. Pour montrer qu'il y a différentes positions en fonction des différentes formes de capitaux spécifiques dont disposent les personnes. Et puis, deuxième chose, ça m'a permis de... le travail de Castel dans les métamorphoses de la question sociale m'a beaucoup aidé. C'est justement avec son idée de zone de vulnérabilité, de processus de désaffiliation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir un minimum d'intégration sociale ou une forme d'intégration sociale assez forte, mais il y a tout un dégradé de situations qui vont de l'intégration à l'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont SDF, qui vivent à l'hôtel ou qui cumulent vraiment des formes de précarité. Ça m'a permis de considérer la prostitution comme une zone de vulnérabilité, comme une activité qui permet, grosso modo, pour certaines personnes les mieux situées, qui ont davantage de ressources, de tenir la tête hors de l'eau, mais qui sont constamment menacées du fait d'absence de protection sociale, de toutes ces séries de contraintes que j'évoquais tout à l'heure, menacés de sombrer dans la plus complète exclusion. Et certaines y sont, et un nombre conséquent de ces personnes sont SDF, cumulent la prostitution avec d'autres activités comme le vol ou la mendicité, sont toxicomanes avec d'énormes difficultés de survie au quotidien. Donc voilà, c'est cet éclairage que m'a permis d'avoir ce travail de terrain sur la longue durée.
Justement, vous avez employé le terme d'espace, enfin la notion d'espace de la prostitution, de même que dans un article récent, vous avez parlé d'espace des mouvements sociaux. Pourquoi, oui, justement, vous n'avez pas repris tel quel le terme de champ de Pierre Bourdieu ?
Alors, parce que moi, je considère que la théorie des champs de Bourdieu, elle est extrêmement éclairante, heuristique, et c'est un apport, c'est un outillage conceptuel extrêmement fort pour penser le monde social et la différenciation du monde social en différentes sphères d'activité. Pour autant, une des faiblesses de la théorie de Bourdieu, c'est qu'elle a du mal à penser des univers flous, fluides, des univers dominés. La théorie des champs, elle s'applique essentiellement à des univers dominants. Le champ du patronat, le champ des évêques, le champ économique, le champ littéraire, etc. Bon. À quel champ rapporter les chômeurs, les femmes au foyer? Bon, c'est une critique qui a été notamment portée par la sociologie féministe. Et moi, au début, très scolairement, j'ai parlé de champ de la prostitution. Bon. Et puis, on m'a fait remarquer que voilà, parmi les caractéristiques d'un champ, il y a par exemple l'illusio, comme le fait d'être intéressé par le jeu qui se joue dans ce champ-là. Or, sachant que les gens sont là par la contrainte, c'était difficile de trouver une illusio dans le monde de la prostitution. Et puis, il y a une espèce de point aveugle. C'est quand, par exemple, Bourdieu, dans les règles de l'art, dit que le champ littéraire s'est autonomisé à partir du 19e siècle, les écrivains du 18e, du 17e siècle, à quel champ les rapporter? Donc il y a des univers qui sont en constitution, qui ne sont pas totalement autonomisés. Et il me semble que le monde des espaces sociaux, des mouvements sociaux, le fait qu'il y ait de l'interdépendance, qu'il y ait des luttes sur la définition des frontières, qui sont des traits qui relèvent des champs. Les mouvements sociaux constituent des univers à part, mais ne répondent pas, là encore, ne sont pas suffisamment autonomisés pour correspondre à ce que Bourdieu définit comme un champ dans ses définitions les plus rigoureuses. Donc, le terme d'espace permettait, il était assez commode pour désigner des univers sociaux pas totalement constitués, pas totalement objectivés, pas totalement institutionnalisés, reconnus. C'est la différence entre mouvements sociaux et syndicats. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là, qui sont des univers hétéronomes. Là aussi, les mouvements sociaux sont fortement dépendants de ce qui se joue dans le champ politique, tout en étant à distance de ce champ politique. Donc voilà, la notion d'espace me semble intéressante pour penser du flou, du fluide, de l'informel, du pas totalement achevé. Ce que ne permet pas la théorie de Bourdieu, malgré tous ses mérites.
Merci. Et donc vous montrez bien dans votre ouvrage, dans ce que vous nous avez dit, qu'il y avait une grande hétérogénéité des positions finalement dans cet espace de la prostitution, enfin un espace qui est quand même très hiérarchisé. Et est-ce que vous pourriez revenir sur le choix du titre? Parce que la condition prostituée finalement, ça évoque quand même, est-ce que vous, d'une certaine manière, ce titre ne risque pas de tomber dans le biais misérabiliste que vous dénoncez précisément un des deux biais que vous dénoncez au début de l'ouvrage?
Non, je ne l'ai pas pris comme ça. Alors bon, à chaque fois les titres des bouquins, c'est toujours une lutte entre l'auteur et l'éditeur, parce qu'il y a des enjeux commerciaux qui sont tout à fait légitimes dedans. Il fallait trouver une formule un peu ramassée. Condition, ça permettait de faire sens, de faire clin d'œil vers la sociologie weberienne, d'une part. Donc c'était un terme sociologique qui en plus me semble pas nécessairement connoté. C'est-à-dire il y a bien l'idée de des conditions d'existence, de qu'est-ce que c'est que d'être prostituée. C'est ça que je voulais aussi traiter dans le bouquin. J'ai pas dû combattre avec mon éditeur pour le titre, mais fallait trouver un titre qui soit un peu marquant, qui se remarque. Donc c'est, ça restait dans le vocabulaire sociologique, n'est pas nécessairement misérabiliste pour moi, parce que je pense qu'il y a d'autres titres récents, La condition fœtale de Boltanski ou La condition littéraire de Lahir ne réfèrent pas à des univers ou des identités qui soient particulièrement dominées. Donc non, c'était le fait d'aller au-delà de l'idée de situation économique, de montrer que c'est pas simplement de la pauvreté, qu'il y a d'autres choses qui se jouent, notamment autour de, au niveau symbolique, autour du stigmate. Que ça avait des effets sur voilà, l'existence concrète, parce que c'était aussi l'enjeu contre ces deux versions, ces deux positions que j'évoquais tout à l'heure, d'aller voir la prostitution, c'est quoi au concret, c'est quoi l'existence concrète des gens qui l'exercent. C'est pas une catégorie abstraite, comme tendent à le faire ces deux positions, soit du métier, soit de l'esclavage. Donc voilà, c'était à la fois une revendication d'un point de vue sociologique et un intérêt sur qu'est-ce que c'est au quotidien que d'être prostitué.
Merci. Et donc ce déplacement du regard de la prostitution envisagée sous son angle de la sexualité, du stigmate finalement attaché à la marchandisation du sexe. Mm-hmm. Donc vous finalement vous appelez bien un déplacement du regard vers le champ socio-économique et la position socio-économique finalement des prostituées. Et est-ce que vous pourriez revenir sur les préconisations politiques que vous formulez dans votre ouvrage par rapport à ce déplacement du regard justement?
Oui, une nouvelle fois, je m'inspire de Castel, qui a vraiment été pour moi les métamorphoses de la question sociale, qui traite très marginalement de la prostitution dans ces 400 pages. Ça a été vraiment éclairant pour moi, parce que ça m'a invité à resituer la prostitution au cœur de la question sociale. C'est-à-dire, bon, Castel, dans une veine très, très, très durkheimienne, fait du travail la condition de l'intégration sociale. Or, la prostitution, c'est une activité qui permet de gagner sa vie, de survivre, mais qui n'est pas un véritable métier. Et pour autant, il ne me semble pas que là, que ce soit en reconnaissant la prostitution comme un métier qu'on pourra résoudre le système. Ce n'est pas non plus par les options répressives que tendent à promouvoir les tenants de la prostitution esclavage. Alors, resituer la prostitution dans la question sociale, c'est envisager le rapport des prostituées au marché du travail, c'est-à-dire pourquoi elles font cette activité-là plutôt qu'un travail salarié, par exemple. Donc ça pose aussi ce que montre l'étude des trajectoires des prostituées, c'est-à-dire pour les gens qui sont très faiblement qualifiés, le marché des emplois disponibles, il est très limité, a fortiori pour des femmes. Bon. Ça permet de comprendre l'entrée dans la prostitution. Et ensuite, ça permet de penser ces facteurs de vulnérabilité hein, de cette zone de fragilité, notamment en regard du logement, en regard des revenus d'assistance, de leur niveau de ces revenus d'assistance, que ce soit le RMI ou je sais pas l'allocation parents isolés ou d'autres choses comme ça. Et ça permet aussi d'élargir le regard, c'est-à-dire que les problèmes que vivent les prostituées ne sont pas nécessairement résolus par une politique spécifique aux prostituées. C'est-à-dire que si on resitue ça parmi un ensemble de facteurs de fragilité, je pense par exemple au logement ou à la toxicomanie, on s'aperçoit que c'est en agissant sur l'ensemble de ces facteurs, en ayant une perspective globale, qu'on peut espérer améliorer leur situation. Et améliorer leur situation, c'est aussi, pour le coup, en faire des gens davantage autonomes, davantage à même de maîtriser leur destin plutôt que de le subir. Et ça, Castel le montre bien, faire des individus, véritablement individus, qui soient capables de maîtriser leur destin, c'est pas quelque chose de donné, ça nécessite un support collectif, c'est celui de la protection sociale, des protections de ce que Castel appelle l'état social, c'est-à-dire la protection face à la maladie, à la vieillesse, au chômage, pour le logement, etc. Et donc c'est en agissant sur ces différents leviers-là, ce qui n'est pas le cas actuellement, loin de là, que les prostituées, mais tous les gens victimes de la désaffiliation, que ce soit les chômeurs de longue durée, les SDF, les mères célibataires sans travail, peuvent espérer trouver une situation un peu meilleure.
Et finalement, vous montrez bien dans votre ouvrage aussi comment les mobilisations, l'action collective spécifique, enfin propre des prostituées, paraît difficilement possible aujourd'hui. Or, il y a eu un certain nombre de mobilisations que vous avez d'ailleurs décrites par ailleurs, oui. Notamment à partir de 1975 avec l'occupation de l'église Saint-Nizier à Lyon, par exemple. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui a changé dans l'espace de la prostitution depuis 1975 et pourquoi ces mobilisations vous apparaissent aujourd'hui particulièrement difficiles ?
Bah parce que c'est ce que notamment a pointé la sociologie des mobilisations américaines des années 70. Pour qu'une mobilisation prenne, il faut qu'il y ait, il est préférable qu'il y ait au préalable une forme de collectif déjà constitué. Si on veut qu'il y ait de l'action collective, il faut qu'il y ait du collectif. Et l'organisation d'un groupe sous forme communautaire ou associative, c'est un facteur positif. Or, dans les années 70, la prostitution, notamment à Lyon, était davantage collective qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour le dire un peu rapidement, il y avait des réseaux de proxénétisme qui sont tout à fait condamnables par ailleurs, mais qui faisaient qu'il y avait une relative solidarité, un sentiment identitaire. Il y avait aussi du fait qu'il y avait une forte répression policière à l'époque, des rafles. Les prostituées se retrouvaient souvent en garde à vue, ensemble, devaient occuper leur temps ensemble, jouer aux cartes. Ça a instauré une forme de solidarité et de sentiment collectif d'une commune injustice subie. Cette forme minimale de cohésion collective s'est estompée au fil du temps, notamment du fait que la prostitution est devenue beaucoup plus une activité de survie, que les contraintes qui déjà existaient très fortement se sont multipliées, notamment avec l'apparition de la toxicomanie aux drogues dures dans les années 90, avec l'apparition des prostituées étrangères sans papier, victimes là aussi de la répression policière, victimes de proxénètes, etc. Donc le sentiment de cohésion, qui était déjà faible, s'est encore plus estompé. Donc construire du nous, construire du collectif devient encore plus difficile qu'auparavant. Donc de fait, les mobilisations de prostituées qui ont toujours été dépendantes de soutien extérieur, que ce soit des féministes, des militants chrétiens de gauche dans les années 70, aujourd'hui c'est plutôt du côté des associations de lutte contre le sida et de certains courants féministes minoritaires qu'elles recueillent du soutien, mais la dépendance à l'égard de ces soutiens, elle est encore plus forte. Et les mobilisations de prostituées qui déjà étaient hétéronomes le deviennent de plus en plus. Et elles sont sans doute peut-être davantage, enfin c'était déjà le cas auparavant, mais minées par les concurrences et les rivalités entre types de prostituées. Par exemple, les mobilisations qu'il y a eu contre la loi Sarkozy, c'était en grande partie mobilisation de prostituées françaises qui espéraient aussi se distinguer des étrangères sans papier donc illégitimes à exercer leur activité en France. Mais aussi, et c'est lié à la forte précarité de ce milieu-là, face à un milieu où la concurrence elle est exacerbée et elle empêche toute solidarité, toute construction du collectif, où elle l'entrave très fortement.
Est-ce que vous pourriez revenir justement sur le contenu de cette loi pour la sécurité intérieure, la LSI, adoptée en mars 2008, et plus généralement sur le contexte législatif en France, enfin réglementaire, qui encadre la sexualité vénale ?
Oui, alors on va dire depuis 1960, le cadre juridique de la prostitution est globalement le même. C'est-à-dire que la prostitution est considérée comme une activité en tant que telle, elle est absente du code pénal, de la loi. Elle est une activité privée que chacun et chacune est libre d'exercer comme il l'entend. Sans par contre réprimer les manifestations publiques de la prostitution qui causent un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire le racolage, et le fait de retirer un bénéfice de la prostitution d'autrui, c'est-à-dire le proxénétisme. Parce que même si on est libre d'exercer la prostitution, elle est quand même considérée comme une inadaptation sociale et des structures de travail social sont financées pour à la fois prévenir l'entrée dans la prostitution et aider celles qui sont tombées à se réinsérer. Bon. Alors, ce cadre législatif, donc depuis 1960, il n'a pas été substantiellement modifié par la loi sur la sécurité intérieure, mais celle-ci a joué un peu à la marge. Elle a réintroduit le délit de racolage passif, c'est-à-dire qui fait de la présence de n'importe quelle personne connue comme prostituée un délit. Donc voilà, le simple fait d'être dans la rue et d'être une prostituée fait que on est susceptible d'avoir un PV. C'est un instrument à disposition de la police pour nettoyer certaines rues où les prostituées font du désordre. C'est un délit qui existait auparavant, qui avait été supprimé du code pénal en 1994, justement parce qu'on lui reprochait d'être une source d'arbitraire. Et c'est justement parce qu'il est une source d'arbitraire qu'il a été réintroduit. La loi sur la sécurité intérieure introduit une nouvelle disposition en matière de proxénétisme, alors de traite des êtres humains, ça c'est typique de la production de la loi à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui fait problème, on fait une loi. La traite des êtres humains ça veut pas dire qu'avant qu'elle soit introduite dans le code pénal, on ne pouvait pas la réprimer. C'est relevé du proxénétisme en bande organisée, qui est passible de la cour d'assises, qui est très sévèrement puni. Bon, donc la loi n'a rien ajouté là-dessus. Elle a aggravé les peines, elle n'a pas introduit un délit qui aurait été toléré auparavant. Hein. Et puis, la LSI a introduit des dispositifs répressifs à l'égard des prostituées étrangères en situation irrégulière, en prévoyant leur reconduite à la frontière, et avec un jeu très, très hypocrite sur de promesses de régularisation temporaire si elles dénoncent leur proxénète. Mais c'est aussi introduire une marge de chantage, de pression de la police sur des personnes en situation de vulnérabilité, en exerçant, oui, une forme de chantage, on te fout la paix si tu dénonces ton proxénète. Dans les faits, en plus, elles se retrouvent très souvent expulsées, reconduites à la frontière sans qu'elles aient eu le temps de dénoncer leur proxénète, ou même si elles l'ont fait, elles n'ont pas nécessairement la régularisation temporaire à laquelle elles auraient droit. Mais cette loi a été rendue possible parce que son but, c'était de rassurer les habitants des villes qui voient des individus qui suscitent un sentiment d'insécurité. Ça peut être les gitans, ça peut être les SDF, c'est éventuellement les prostituées dont on ne sait pas trop ce qu'elles font, ce qu'ils font tous ces gens-là, mais on se doute que c'est pas bien clair, c'est pas bien propre, qu'on préférerait qu'ils ne soient pas là. Et la loi dote la police de moyens pour faire qu'ils ne soient pas là, pour les éloigner. Hein. Donc ça a été une réponse démagogique à un sentiment d'insécurité qui peut être fondé. Les nuisances que peuvent causer des SDF ou des prostituées dans certains quartiers sont réelles, hein, faut pas se leurrer. Le problème, c'est que ça rend encore plus précaires et vulnérables des gens qui l'étaient déjà pas mal, et ça rend difficile toute possibilité d'aide à ces personnes. C'est-à-dire que dans le débat sur l'insécurité et dans la réponse que la loi prétend apporter à l'insécurité, il y a une insécurité qui n'est jamais interrogée, c'est celle que vivent les prostituées elles-mêmes. Et cette insécurité, elle est renforcée par la loi. D'autant plus que, parce qu'elles sont davantage isolées, donc davantage à la merci des proxénètes, des agresseurs de toute catégorie, mais en plus, elles sont exclues à quand même un droit fondamental qui est le droit à la justice, parce que si elles veulent porter plainte, ça va être auprès de cette même police qui les harcèle et qui leur colle des PV. Donc elles sont de fait exclues de la justice.
Merci. Et donc depuis que vous avez quitté ce terrain de la prostitution, même si vous y êtes revenu d'ailleurs pour une circonstance qui est assez amusante pour un spécialiste des mouvements sociaux que vous nous aviez expliqué, que je vais vous laisser nous raconter à nouveau. Et donc depuis que vous avez quitté ce terrain, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont vos thèmes actuels de recherche et quelle est la continuité finalement entre la prostitution et donc le droit des étrangers, en fait, la question de la double peine ou aujourd'hui le réseau d'éducation sans frontières?
Oui, alors depuis que... Moi, Maintenant, je travaille surtout sur les mouvements sociaux. Alors bon, bah, l'anecdote, c'est que quand il y a eu le mouvement contre le CPE, la Sorbonne, où j'ai mon bureau, a été bloqué pendant un mois et demi. Donc, j'ai pas pu continuer les travaux que j'avais en cours parce que j'avais tous mes dossiers, tout ce dont j'avais besoin était enfermé dans mon bureau, était gardé par des effectifs conséquents de CRS. Donc, j'ai dû m'occuper. Donc, j'avais un peu ce projet de retravailler donc ces articles, de les réunir dans un livre sur la prostitution. Donc, j'ai eu l'opportunité de le faire vu que mes autres terrains de recherche étaient un peu mis en stand-by. Bon, alors, il y a une continuité qui est déjà ancienne parce que ma thèse portait sur les mouvements de prostituées. Donc, j'avais fait mon DEA sur la prostitution, qui était une ethnographie de la prostitution à Lyon. Ensuite, très tôt, la question, l'intérêt pour les mouvements sociaux m'a motivé, avec l'idée que la prostitution pouvait constituer un terrain intéressant parce que c'était un milieu où des actions collectives, des révoltes étaient particulièrement improbables. Donc c'était une manière de tester un peu à la limite, là où c'est le plus difficile, le plus improbable, les modèles théoriques qui avaient été produits pour analyser des mouvements un peu plus classiques, mouvements étudiants, mouvements ouvriers, que sais-je encore, mouvements écologistes. Bon. Donc voilà, dès le début de ma thèse, il y avait un intérêt pour les mouvements sociaux. Alors par la suite, je me suis orienté vers d'autres mouvements. Alors c'est là que je ne suis pas sûr qu'il y ait une continuité entre mouvement et prostituée, mouvement contre la double peine. Donc ça a été un de mes gros chantiers après la thèse. J'ai retrouvé des choses similaires au mouvement de prostituées. Du fait que c'était une catégorie avec très faible cohésion, c'est pas un support d'une identité valorisable, le fait d'être double peine, d'être un étranger délinquant qui a été condamné à une expulsion du territoire, mais c'est aussi pas, il n'y a pas un groupe constitué, et donc il y a une forte dépendance à l'égard de soutien extérieur. Et ces soutiens, d'ailleurs, on retrouve parfois les mêmes personnes qui ont soutenu les prostituées en 75 et qui ont soutenu des doubles peines quelques années après. On retrouve globalement les mêmes, certains mêmes foyers de soutien au travers du militantisme chrétien. Mais c'est pas ce qui m'a le plus intéressé parce que bon, c'est une question, les rapports entre des dominés qui se révoltent et des soutiens qui appartiennent pas à leur groupe, je l'avais traité. Donc c'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait dans la recherche, c'était de revenir notamment, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'une part l'idée de revenir sur le concept de structure des opportunités politiques qui vise de manière, selon moi, très insatisfaisante à rendre compte des fluctuations, des succès d'un mouvement social dans la durée en fonction des évolutions du contexte politique. Donc je voulais suivre un mouvement sur une longue durée, donc des années post-68 jusqu'à 2003, et voir comment il avait fluctué au gré des alternances politiques. Ça, c'était une première chose, donc une perspective un peu historique. Deuxième chose, c'était d'interroger les usages militants du droit, parce que le droit des étrangers est devenu quelque chose de très complexe et qui est devenu... les ressources juridiques sont devenues des ressources militantes, hein, parce que les mouvements de soutien aux étrangers se sont spécialisés, mais un peu par la force, dans le registre juridique, et ils en usent de manière à faire avancer la cause des étrangers, dont les doubles peines. Donc ça m'intéressait d'interroger ces questions-là, des rapports entre mouvement social, champ politique et champ juridique. Donc c'est pas forcément original, il y a d'autres travaux très nombreux en plein développement sur les usages militants du droit, mais c'était une des questions qui m'intéressait. c'est une recherche qui maintenant est terminée. Depuis, je me suis notamment tourné vers Réseau Éducation Sans Frontières. Alors là aussi, c'est aussi en fonction des opportunités de recherche. J'ai été sollicité pour participer à une recherche collective sur la question de l'immigration, parce que là aussi, j'avais été repéré comme quelqu'un qui s'intéressait aux mouvements sociaux de l'immigration. RESF apparaissait comme une démobilisation sur la question du séjour des étrangers les plus en pointe depuis la fin
ou oui, l'arrêt du mouvement contre la double peine. Donc ça pouvait être, voilà, il y avait une relative continuité des mouvements. Mais là aussi, je ne voulais pas rééditer la même chose, donc j'ai changé de focale d'analyse, et là, je m'intéresse davantage aux trajectoires des militants. C'est-à-dire pourquoi des gens qui, pour certains, n'étaient pas spécialement militants avant d'être confrontés à la question des enfants de sans-papiers, notamment parce que leurs propres enfants, son petit copain de cours de récré ou de classe d'enfants de sans-papiers qui risquent d'être expulsés, vont se mobiliser, deviennent militants alors que ce n'était pas forcément dans leur tempérament. Et donc c'était travailler sur des trajectoires et voir dans une approche qui essaye de croiser à la fois le poids des dispositions sociales qui ont été intériorisées au fil d'une existence, et une situation où les gens sont un peu mis en demeure de s'engager, c'est-à-dire qu'ils sont face à une situation qu'ils n'avaient pas prévue, qui interpelle leur sens du juste. Et comment, voilà, ces deux aspects qui sont généralement tenus à distance dans l'analyse sociologique, à la fois les dispositions, l'explication un peu par le passé, ou l'explication par la situation, par le ici et maintenant, peuvent être articulés. Donc c'est ça que je suis en train d'essayer de travailler à l'heure actuelle.
D'accord. Et une toute dernière question. Donc vous ne vous en cachez pas, vous êtes vous-même assez engagé sur les sujets sur lesquels vous cherchez. Est-ce que justement cet engagement, où j'aime bien la manière dont vous le dites, cette non-indifférence au monde qui vous entoure, n'est pas un obstacle, ou en tout cas un obstacle à votre position de chercheur ?
Ça peut parfois être un obstacle, et c'est vrai que... Il y a à la fois des sujets dont je me suis un peu éloigné parce que ça commençait à devenir un peu à poser problème, c'est-à-dire quand j'ai travaillé notamment sur le mouvement altermondialiste en équipe, et je me suis aperçu au bout d'un moment que j'interviewais essentiellement des gens de mon réseau amical, avec des copains qui me reprochaient de ne pas les avoir interviewés. Ça devenait aussi une difficulté à s'extirper de certains enjeux dans lesquels on est pris. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une analyse ou est-ce qu'on prend position dans des débats qui agitent un mouvement social ? Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu comme un peu gênant. Donc ce qui fait que j'ai un peu esquivé le sujet. Par contre, il y a des moyens assez... que j'ai découvert un peu par hasard de neutraliser ou de prendre conscience de certains biais qu'on pouvait avoir du fait d'une certaine sympathie ou antipathie qu'on pouvait avoir pour des mouvements sociaux. J'ai pas travaillé de manière très approfondie, mais j'ai un peu travaillé sur les mouvements d'extrême droite. Et ça a été très utile quand je me suis aperçu que j'utilisais certains termes pour parler des mouvements d'extrême droite que j'utilisais pas pour parler des mouvements qui, a priori, m'étaient un peu plus sympathiques. Terme d'idéologie, pourquoi j'en parle pour l'extrême droite, pas pour le mouvement altermondialiste. Donc il y a moyen de contrôler un peu ce rapport à l'objet. Donc on n'est pas totalement pris dans... Il faut être conscient de ce que ça peut induire. Et je pense là aussi, les pistes que Bourdieu traçait pour une sociologie réflexive... sont utiles. On n'est jamais totalement dépassionné, distancié par rapport à un objet. Donc c'est pas nécessairement un handicap à partir du moment où on se leurre pas sur la position qu'on occupe à l'intérieur de certains mouvements, mais y compris lorsqu'on n'est pas militant, mais dont la manière dont on peut ses propres analyses peuvent être utilisées par les militants eux-mêmes. C'est tout un ensemble de choses qui méritent d'être, dont on doit être conscient, qui doivent être contrôlées, qui ne sont pas un obstacle insurmontable à l'analyse sociologique non plus.
D'accord. Merci beaucoup Lilian Mathieu d'avoir accepté cet entretien, et bon courage pour la suite de vos recherches.
Merci.